Arrivants nous reviennent. Voilà. Notre prochaine séance aura lieu le 12 avril. Jean-Michel Delacondé nous fera des portraits d'auteurs du 16, 17e et 18e siècle. Ça sera assez riche et assez intéressant, bien sûr. Oui, il y a un peu de l'arsenal.
Ça va mieux que ça ?
Oui.
Non, oui. Bienvenue en tout cas en cette journée printanière et féminine. Et nous commencerons donc par une femme, Daniel Cor. Donc je fais tout de suite les annonces. Daniel Cor qui sera la poète invitée de l'association Sésame le samedi 5 avril. Stéphane Alzaris, ici présent, va nous en dire un peu plus. Y a-t-il d'autres annonces ?
Pensez à éteindre vos téléphones portables, merci.
Pas d'autres annonces ? Bien, nous allons commencer notre séance par une petite. Par quelques vers. Ah, les vains regrets de ma terre m'ont révélé tous leurs secrets. Je suis en tout lieu solitaire, peu m'importe où je dois errer. C'est donc par une femme que nous commençons ce printemps, une femme rebelle, une femme russe. Et c'est avec ces deux termes que nous rendrons hommage à la poésie russe de résistance, qui, n'en doutons pas, s'exprime aujourd'hui en silence, et que, je l'espère, nous entendrons bientôt. Avec Marina Tsevaseyeva, nous invitons l'âme russe rebelle. Et je présente d'abord Stéphane Alzaris, docteur en philosophie, professeur à l'université, qui mène un projet de philosophie de soins, et mène une démarche éthique à l'hôpital. Il est aussi passionné par la géopolitique et président de l'association Sésame. Il nous présentera lui-même Florent Delporte.
Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui.
Je suis Stéphane Alzaris et je suis chargée de présenter mon invité, Florent Delporte. Je vais le présenter dans quelques minutes, mais je vais vous dire quelques mots de mon rapport à Marina Tsvetaeva et du pourquoi j'ai proposé cette séance aujourd'hui autour de cette poétesse russe, cette femme, non seulement en cette journée de la femme, mais aussi en ce printemps des poètes qui s'annonce. Et je suis très heureux d'aller à la rencontre de Marina la Vésuvienne. Marina la Vésuvienne, peut-être vous savez quel est le thème du prochain printemps des poètes, ainsi qu'elle se nomma un jour, la Vésuvienne. Donc il y a du volcanique dans son œuvre, il y a du volcanique dans sa poésie, mais aussi plus largement dans sa vie, dans la vie de Marina Tsvetaeva. C'est une poétesse que certains d'entre vous connaissent peu, j'imagine. Donc c'est pour ça que j'ai invité Florent Delporte, qui va vous en dire beaucoup plus, qui habite Marina Tsvetaeva, ou qui est habitée par Marina Tsvetaeva. Je vais vous dire en quel sens dans quelques minutes. Mais d'abord, quelques mots sur Marina Tsvetaeva et sur mon lien. Alors moi, je suis philosophe, philosophe existentiel, et je m'intéresse à Marina Tsvetaeva depuis... Ça va, Colette ? Non, je crois qu'il y a un problème d'enregistreur. Je m'intéresse à Marina Tsvetaeva depuis quelques années en lien avec la philosophie existentielle. Et Marina Tsvetaeva, c'est une intensité de vivre. Je l'ai découverte par un livre que j'ai apporté dans sa version originale, peut-être que certains connaissent, le livre de Tsvetan Todorov, Vivre dans le feu. Il a été publié depuis en livre de poche, j'ai posé la version en livre de poche sur la table, Vivre dans le feu, et ça me semble être une très belle formule pour traduire l'incandescence, non seulement de son œuvre, de sa poésie, mais aussi de cette vie, qui est une vie tragique. Alors c'était une philosophe que j'ai souvent reliée à Friedrich Nietzsche par rapport à cette intensité de vivre, par rapport aussi à cette sagesse tragique qu'elle a portée pendant toute sa vie, et par rapport aussi à une dimension que l'on peut entendre dans cette formule qui est de Marina Tsvetaeva, et que je vous cite donc, « Nul besoin de quoi que ce soit d'extraordinaire autour de nous, si à l'intérieur c'est extraordinaire. » Voilà, tout le monde entend bien ? L'intériorité, c'est une poétesse qui nous invite à déployer un chemin vers l'intériorité. et particulièrement à travers un terme qu'elle emploie régulièrement, non seulement dans sa poésie, mais aussi dans toutes ces autres formes d'écriture, le mot « âme ». Si à l'intérieur, c'est extraordinaire, ça veut dire pour Marina Tsvetaeva, l'âme. Je vous cite une autre formule de Marina Tsvetaeva. Tout m'est égal, je suis forte. Je n'ai besoin de rien excepté de mon âme. Donc il y a une forme aussi d'indépendance. Vous verrez que je vais relier dans quelques minutes cette formule de Marina Tsvetaeva à un grand philosophe stoïcien que j'enseigne régulièrement à l'université et aussi dans les hôpitaux pour les médecins et les soignants. C'est Épictète et Marc Aurèle. Et je vais relier cette formule de Marina Tsvetaeva à une formule de Marc Aurèle en lien avec le feu, en lien avec cette figure du feu, cet élément feu qui me semble caractériser parfaitement son être. Alors Marina Tsvetaeva, c'est aussi une poétesse que j'ai souvent reliée à Victor Hugo. Victor Hugo qui nous disait dans un texte intitulé « Tas de pierres », « L'encre, cette noirceur d'où sort une lumière ». Et c'est une citation qui a été reprise récemment dans un magnifique livre sur Victor Hugo, que je vous conseille, si vous voulez entrer dans l'œuvre de Victor Hugo, ou par une nouvelle porte, entrer dans cette œuvre. Un livre dont le titre, pour moi, est en résonance avec le parcours, la démarche de Marina Tsvetaeva. C'est le livre de Annie Lebrun, qui nous a quittés récemment, qui s'intitule « Les arcs-en-ciel du noir ».« Les arcs-en-ciel du noir » Victor Hugo, de Annie Lebrun. Cette formule « Les arcs-en-ciel du noir » me semble tout à fait... Je regarde mon ami Florent, qui opine du chef, tout à fait s'appliquer à Marina Tsvetaeva. Parce que Marina Tsvetaeva, c'est une... Alors, Bernard ne m'a pas présenté comme ça, mais il se trouve que je suis aussi artiste magicien et danseur. Donc j'associe des pratiques artistiques à la philosophie existentielle depuis bien un bon nombre d'années. Et que là, on a moins affaire à une magicienne en la personne de Marina Tsvetaeva qu'en une figure de sorcière. Alors c'est pas de moi hein, cette formule. Elle a été qualifiée de sorcière par sa fille notamment. Et je dirais que la dimension magique de Marina Tsvetaeva, c'est cette capacité de transfigurer le noir en lumière. Et ça, on pourrait dire que c'est une vertu du feu, la vertu de la transfiguration, la vertu de la métamorphose. Et elle conçoit d'ailleurs son art poétique comme un art de la métamorphose et de la transfiguration. Tsvetan Todorov y est très sensible à cette dimension de transfiguration. Alors attendez, il faut que je me retrouve juste dans mes notes. Où ai-je noté ça ? Alors, je vais retrouver ça dans quelques instants. En tout cas, l'idée est très simple. C'est que pour Marina Tsvetaeva, ce n'est pas l'art qui prime. Et c'est en ça qu'elle est très nietzschéenne. Qu'est-ce qui prime ? Donc, elle est très romantique dans son esprit, mais sur certaines dimensions, elle se distingue du romantisme, notamment par cet aspect où elle ne va pas considérer l'art comme supérieur à quoi, à votre avis ? À quoi ? Qu'est-ce qui est pour elle le sol fondateur et on pourrait dire la terre nourricière de l'art et de la poésie, et qui fait d'elle une grande nietzschéenne, justement.
La vie.
Évident. La vie, tout simplement. La vie. La vie, tout simplement. Et son art métamorphique, son art magique, consiste à transfigurer la vie en art, mais toujours d'être enraciné dans ce que Nietzsche avait appelé le sens de la terre. Alors dans quelques instants, je vais présenter Florent Delporte et vous dire qu'il a créé une association il y a quelques années qui s'intitule l'association Marina Tsvetaeva Étoile Averse. C'est dans cet ordre-là. Étoile Averse. pour souligner peut-être une chose importante, pour, comme Florent me le disait récemment, pour saisir vraiment la métaphysique de l'œuvre de Marina Tsvetaeva. Cette métaphysique, c'est un monde à la fois terrestre et céleste. C'est un monde entre terre et ciel, qui fait aussi de la figure de l'arbre une figure princeps, qui est une figure qui est au cœur de cette œuvre et de cette poésie. Alors d'ailleurs, je parle de poésie depuis quelques minutes, mais peut-être que certains d'entre vous le savent, Marina Tsvetaeva est une écrivaine qui a bien plus de cordes à son arc que simplement l'écriture poétique. Et quand on découvre Marina Tsvetaeva par ce livre « Vivre dans le feu » de Tsvetan Todorov, en fait, nous sont livrés dans ce livre-là plutôt des écrits autobiographiques ou des écrits intimes, notamment ses carnets ou ses cahiers. Alors c'est intéressant parce que quand on parle de Nietzsche et de cette formule « le sens de la terre », pour Marina Tsvetaeva, sa terre, c'est son cahier. Sa terre, c'est son carnet. Et donc la terre, bien sûr, est à entendre dans la formule de Nietzsche en un sens métaphorique. C'est beaucoup plus que la terre au sens littéral du terme, évidemment, éminemment. La terre, c'est son carnet, son cahier. Donc beaucoup d'écrits personnels, beaucoup d'écrits intimes qui ont été publiés plusieurs décennies après sa mort. Et puis aussi des textes en prose qui sont très nombreux, de la prose poétique, des récits, des contes. Je ne vais pas sûrement faire le tour, hein, Florent complétera tout à l'heure. Des récits, des contes, l'âme enfantine, l'enfance de l'âme est une dimension très importante dans la poésie de Marina Tsvetaeva. Et puis aussi, bien sûr, qui m'a intéressée en tant que philosophe, des essais. Des essais qui nous délivrent des clés de compréhension de la nature de la poésie, de la nature de cet acte singulier qu'est la poésie, pas simplement en tant qu'écriture, mais aussi en tant que poétique de l'existence, en tant qu'état aussi, en tant qu'état d'âme, qu'état d'être. Et là, les paroles de Marina Tsvetaeva sont très fortes, sont très puissantes par rapport à ce qu'elle entend comme l'état poétique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle a une conception aussi de la poésie qui dépasse largement la poésie associée à la forme créatrice scripturale. Pour elle, d'ailleurs, c'est pas ça ce qui prime, hein. C'est vraiment, encore une fois, la vie. C'est l'intensité de vivre. Un véritable poète, c'est celui qui vit intensément. D'où aussi sa proximité avec ce qui est pour Florent Delporte l'année sublissime, hein, je reprends le terme que tu avais employé récemment avec moi, l'année sublissime, parce que ça peut être aussi une belle porte d'entrée dans l'œuvre et dans la vie de Marina Tsvetaeva. L'année sublimissime de Marina Tsvetaeva, vous savez peut-être, c'est 1926, qui a donné lieu à la célèbre correspondance à trois que l'on trouve dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard, et qui va rassembler trois étoiles, ou deux des étoiles que Marina reconnaît comme telles. C'est d'abord Rainer Maria Rilke, et puis l'autre, c'est un des grands poètes russes aussi de ce siècle d'argent, donc début du XXe siècle, qui a été un grand amoureux aussi de Marina Tsvetaeva, c'est Boris Pasternak. Donc cette correspondance à trois aussi, cette année 1926, qu'on peut considérer comme sublimissime, mais qui est un sommet dans la rencontre entre trois génies, on peut dire, puisque Marina Tsvetaeva est devenue, au même titre que Victor Hugo, un véritable génie. Un génie pas simplement de l'art, mais de l'existence aussi. Et pour le coup, ça constitue aussi une très belle porte d'entrée, parce que quand on rencontre Marina Tsvetaeva, je pense que Florent fera écho à cette proposition que je vous fais. Quand on rencontre Marina Tsvetaeva, on rencontre aussi une constellation. C'est une image évidemment qui consonne et qui résonne avec l'étoile ou les étoiles. On rencontre une constellation, donc on rencontre aussi bien d'autres grands écrivains, artistes, poètes, avec qui elle a été en relation épistolaire, qu'elle a aimé parfois follement, comme Boris Pasternak. Et donc on entre dans une sorte de famille spirituelle. J'emploie à dessein le terme spirituel parce que c'est aussi une dimension très importante, non seulement pour Marina Tsvetaeva, mais aussi pour la culture russe. Et pour aussi la filiation, que je dirais spirituelle, qui existe entre Marina Tsvetaeva et Florent Delporte, donc ici présent. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, si ce n'est que je vais terminer sur une petite formule de Marina Tsvetaeva avant de vous présenter en quelques... Enfin, deux formules quand même. Une dernière chose avant cette dernière formule, avant que je ne présente rapidement Florent Delporte, et qui m'intéresse vraiment beaucoup par rapport à la dimension philosophico-existentielle et à la dimension spirituelle aussi que j'évoquais à l'instant, c'est que Marina Tsvetaeva s'est considérée comme, et c'est son expression, une sténographe de l'être. Sténographe de l'être ou sténographe de la vie. Elle a employé les deux termes associés à sténographie. C'est-à-dire qu'elle... Et c'est d'ailleurs l'expression qu'elle voulait qu'on inscrive sur sa tombe. Sur le monument aux morts, sur sa croix. Elle dit « Sténographe de la vie, c'est tout ce que je veux que l'on inscrive sur mon monument, sur ma croix. Seulement « vie » en majuscule, impérativement. Si j'étais un homme, j'aurais dit « de l'être ». Donc « Sténographe de l'être ». Qu'est-ce que ça signifie, ça, « Sténographe de l'être » ? En deux mots. Et Tsvetan Todorov y a été sensible. Ça veut dire que ce n'est pas elle qui écrit. Que sa tâche, ce n'est pas d'écrire, que sa tâche, c'est de transcrire. Ça, c'est vraiment déterminant, c'est une clé pour entrer aussi dans l'œuvre de Marina Tsvetaeva, et pas simplement dans son œuvre poétique. C'est qu'elle transcrit. Et bien sûr, en lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'âme, l'âme, c'est aussi une dimension de notre être qui n'est pas liée au moi, mais qui est liée au soi. Et donc qui est à la fois ouverte sur le monde et en même temps qui est une dimension, je dirais, de traversée. Et Marina a cette capacité d'écoute, cette capacité de se laisser traverser pour se mettre en résonance et pour trouver les mots. Alors après, dans un travail d'orfèvrerie, dans un travail de précision, qui est là, est un véritable travail artisanal, hein, qu'on retrouve chez bien des poètes, évidemment, chez bien des écrivains plus largement, mais d'abord et avant tout, son travail de poète, c'est de se mettre en consonance, on pourrait dire, avec la poétique des éléments du monde. Et moi, j'en suis venu à Marina Tsvetaeva il y a quelques années, parce que j'animais dans le cadre de l'association Sésame, donc Bernard a rappelé que j'étais président de l'association Sésame, depuis 27 ans, j'ai déployé pendant plusieurs années un projet sur la poétique des éléments. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Marina Tsvetaeva. Et peut-être, je ne sais pas si tu as prévu de parler de cet élément, on pourrait dire premier, primitif, qui est au cœur de l'œuvre de Marina Tsvetaeva, qui est l'eau. Alors, le rapport entre l'eau et le feu, peut-être je vous fais une petite proposition en 20 secondes, c'est que, et en terminant sur la citation de Marc Aurèle, comme promis, Marc Aurèle disait dans ses pensées, et c'est ce qu'incarne pour moi Marina Tsvetaeva, Marina Tsvetaeva incarne un feu ardent. Un feu ardent, nous dit Marc Aurèle, un feu ardent transforme en flamme et en lumière tout ce que tu y jettes. Donc c'est cette capacité de métamorphose du feu qui a fait que Marina Tsvetaeva, dans sa vie, a pu incarner cet élément eau, donc cet élément qui est l'informe par excellence et qui lui a permis d'épouser toutes les formes de l'existence et de traverser toutes les épreuves et de ne pas être écrasé, on pourrait dire, par les coups du sort. Donc pour moi, il y a vraiment un lien entre ces deux éléments que sont le feu et l'eau, parce que ce feu a cette capacité de transformation et de métamorphose, on pourrait dire des affres de l'existence, des adversités, et elle a cette capacité de transformer Marina Tsvetaeva, et c'est pour ça pour moi qu'elle est un maître de la philosophie existentielle, de transformer l'adversité en altérité. J'imagine que ça va résonner, Florent, avec certains aspects de ta présentation. Alors, quelques mots sur Florent Delporte, je disais tout à l'heure, qui est habité par Marina Tsvetaeva et qui, en même temps, habite Marina Tsvetaeva. Alors, en un sens, à la fois propre et figuré. Alors, je ne sais plus comment nous nous sommes rencontrés avec Florent, mais ça fait pas tant d'années que ça, c'était quelques années. Et, alors, Florent, d'abord, quelques mots sur son ancrage. Il a un ancrage rimbaldien, puisqu'il est né dans les Ardennes et que c'est toujours pour lui une terre à la fois inspiratrice et créatrice pour son projet de vie. Aujourd'hui, Florent a un projet de vie, Florent Delporte, donc un projet de vie autour de Marina Tsvetaeva, à travers une association qu'il a créée en 2007 qui s'intitule donc Marina Tsvetaeva Étoile Averse. Donc dans Étoile, on a le ciel, dans Averse, on a la terre, et on a surtout ce cycle de l'eau que j'évoquais presque implicitement il y a quelques minutes. Tout commence par l'achat d'un appartement à Vanves en 2002. Au 65 rue Jean-Baptiste Potin. Quelques années plus tard, en 2008, il est contacté, Florent, par une femme qui se prénomme Alexandra et qui est en train de réaliser un documentaire sur Marina Tsvetaeva et notamment sur les logements, les habitations de Marina Tsvetaeva à Paris et en région parisienne. Et lui révèle que l'appartement qu'il occupe est l'appartement le dernier appartement que Marina Tsvetaeva a occupé, donc à Paris, au sens large. Florent découvre à cette occasion Marina Tsvetaeva qu'il ne connaissait pas du tout. Il découvre aussi ces deux noms que j'évoquais tout à l'heure qui lui sont associés, Pasternak et Rilke notamment. Et puis un autre troisième nom très important pour Florent, c'est Shostakovich. Parce que vous savez peut-être que Shostakovich a mis en musique des poèmes de Marina Tsvetaeva, des poèmes d'autres écrivains ou poètes aussi, mais notamment de Marina Tsvetaeva. Et aussi, ça me permet de dire, et ça c'est très important pour la rencontre entre Florent et Marina Tsvetaeva, Florent est agrégé d'allemand et professeur, mais il est aussi musicien. Et c'est une porte d'entrée pour lui dans l'œuvre de Marina Tsvetaeva, ça j'imagine que tu vas en dire quelques mots. Il est musicien, il joue à l'orchestre, il est corniste, mais il est aussi pianiste. Et depuis cette rencontre avec Marina Tsvetaeva, il a créé plusieurs spectacles avec des dimensions musicales et avec aussi de la création musicale, alors doublement je dirais, à la fois compositeur mais aussi mise en musique de certains poèmes de Marina Tsvetaeva. Et donc ça a été pour toi déterminant pour pouvoir comprendre le sens de l'œuvre poétique de Marina Tsvetaeva particulièrement et par rapport à une dimension évidemment très importante dans cette œuvre poétique, c'est la dimension du rythme, de la rythmicité dans l'œuvre de Marina Tsvetaeva, qui est évidemment très mal rendue en français, très difficile à rendre en français. Mais depuis cette époque où il a rencontré Marina Tsvetaeva, donc dans les années 2010, Florent a aussi appris le russe et est allé régulièrement en Russie, a créé un spectacle aussi avec d'autres artistes, comédiennes, metteurs en scène, autour de Marina Tsvetaeva qu'il a pu jouer aussi en Russie pendant plusieurs années. Et en 2007, donc, crée cette association en lien avec cet appartement à Vanves que vous pourrez découvrir, qui est aujourd'hui un musée, je dirais privé, est-ce que ce serait, on peut le dire comme ça, un musée privé, qui rassemble un certain nombre d'éléments liés à la vie et à l'œuvre de Marina Tsvetaeva. Il faut dire qu'il a rencontré aussi une très grande Tsvetaevienne, il va vous parler de certaines personnes qui ont côtoyé l'œuvre de Marina Tsvetaeva et qui sont des connaisseurs, des connaisseuses, ou des traducteurs, traductrices de son œuvre, mais notamment, il a pu côtoyer de manière très étroite Véronique Lossky. Véronique Lossky qui non seulement a introduit à travers plusieurs ouvrages, mais aussi a été celle qui a traduit l'œuvre intégralement de Marina Tsvetaeva en français. Je ne sais pas si vous connaissez donc ce nom de Véronique Lossky. Et Florent a eu la chance de la rencontrer, de la connaître, de travailler avec elle, et pour le coup, de grandir en connaissance et en compétence par rapport à l'œuvre de Marina Tsvetaeva. Et puis une dernière chose par rapport à ces rencontres que j'évoque très rapidement, puisque c'est aussi une histoire de rencontre, une affaire de rencontre dans ta vie, Florent, par rapport à Marina Tsvetaeva, rencontre avec Lesia Tichkovska ou Tichkovskaya, dont le nom est inscrit tout en bas de ce petit flyer que je vous ai proposé tout à l'heure, qui est une grande Tsvetaevienne, qui a fait sa thèse de doctorat sur Marina Tsvetaeva, qui est ukrainienne, russophone, qui est une amie à nous, et qui est aussi comédienne, actrice, qui l'a été en Ukraine, qui ne l'est plus en France, elle est en France depuis plusieurs années, et qui en France est musicienne et chanteuse. Et là aussi c'est une affaire de rencontre, parce que tu me disais que sans Lesia, tu n'aurais pas pu entrer véritablement dans l'œuvre de Marina Tsvetaeva, parce que vous avez passé des, j'allais dire des dizaines et des dizaines d'heures, mais ce serait plutôt des centaines et des centaines d'heures, à déchiffrer, à comprendre, à pouvoir aussi être en capacité de poser les accents au bon endroit pour que toi, après, tu puisses créer des musiques pour pouvoir mettre en musique certains poèmes de Marina Tsvetaeva. Donc c'est aussi une histoire et une affaire artistique, une affaire musicale. Et maintenant, je te laisse la parole, Florent, pour que tu puisses nous enchanter. Grâce et avec la personne de Marina Tsvetaeva.
L'Ouvrière Salomé, c'est un... Est-ce qu'on peut compresser un peu le son du... Bien sûr. C'est le grand amour de Rilke. Mais c'est le Hélénich, tout à fait, avant
Rilke. Mais... Alors ça, là, c'est un peu trop, pour le coup.
Mais... On va régler le micro.
Un, deux, trois, deux, trois. Ah, c'est pas mal. Ça vous va ? Trop ?
Ça résonne beaucoup, hein. Moi, je t'entends mal, moi.
Est-ce que ça... Dites-moi, c'est à vous de me dire.
Ouais.
De toute façon, dites-moi, c'est mieux comme ça ? En restant un peu comme ça ? Très bien. Bien.
Je vais me lever aussi. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Merci à Bernard et à Stéphane. Je suis ravi d'être ici en ce jour très symbolique du mars pour parler de la femme de ma vie, tout simplement, hein, ma vie. Donc effectivement, je vis chez elle, nous vivons ensemble, je lui consacre quasiment tout mon temps maintenant, et je le fais avec un énorme plaisir et sans aucune contrainte. Voilà, donc effectivement, cette rencontre a été foudroyante, comme toujours chez Tsvetaeva. Hein. C'est Tsvetaeva, je ne suis pas le seul. Hein, je ne suis pas le seul dans ce cas. Heureusement, il y a chez Tsvetaeva quelque chose de magnétique. Et beaucoup de gens, comme moi, ont été frappés par elle et ont consacré leur vie à elle. Et c'est pour cela, voilà, il y a quelque chose du domaine du miracle dans tout cela. Marina Tsvetaeva, je vous la présente déjà rapidement pour que vous ayez quelques petites... chronologique et biographique. Elle est née en 1892 dans l'Empire russe, l'Empire tsariste. Elle va vivre en Russie jusqu'en 1922. Donc ça veut dire qu'elle vit la révolution en Russie, ce qui est pour elle déterminant. Car elle côtoie naturellement la violence, la famine, la dureté politique, et ça, elle ne l'oubliera jamais. Elle décide de partir en émigration car son mari, lui, a décidé lors de la Révolution de combattre aux côtés des Blancs. Et la défaite des Blancs consommée en 1920, il ne peut plus retourner dans ce qui va devenir l'URSS et il décide donc de partir à Berlin puis à Prague. Tsvetaeva a deux choses dans sa vie qui sont sacrées. La première chose, vous l'avez déjà compris, c'est la poésie. La deuxième chose, c'est sa famille, ses enfants, ses parents. Et donc, elle ne se voit pas vivre sans son mari, et elle ne voit pas sa petite fille grandir sans son mari et sans son père. Et donc, elle décide de le suivre dans l'émigration, Berlin, Prague, pendant 3 ans, et en 1925, revient dans une des patries de son cœur qu'elle connaît. Elle avait déjà été petite l'occasion de venir en France. Elle va y rester de 1925 à 1939. Dans des conditions compliquées, certes, mais qui vont lui permettre de, d'inlassablement continuer l'œuvre de sa vie, son œuvre littéraire. En 1939, elle décide de repartir en URSS. Pourquoi ? parce que son mari, lui, n'a pas voulu rester en France. Sa fille n'a pas voulu rester en France. Ils ont voulu aller, comme elle dit avec une ironie mordante, créer l'homme nouveau en URSS. Elle, elle ne croit pas dans toutes ces grandes paroles idéologiques soviétiques. Mais malheureusement, comme le dit elle-même Marina en parlant de son mari, donc Serge Efron, elle le dit, c'est un fanatique. Et de l'URSS, il ne veut en voir que ce qu'il en voit. Et donc Efron va repartir dans des conditions terribles, parce que Efron va devenir un espion pour les services secrets soviétiques, participer à essayer de traquer les ennemis de l'Union soviétique en France, donc c'est quelqu'un qui a aussi une face très sombre. Et donc en 1937, il repart, sa fille l'avait précédé en 1937, en mars 1937. Et Svetaeva donc repart en 1939, elle repart pour mourir, elle le sait. Elle repart pour mourir, elle ne se fait aucune illusion sur l'Union soviétique. Malheureusement pour elle, elle ne s'imagine pas que en 1939, ça elle l'imagine très bien, que la guerre va arriver, ça elle le sait très bien, mais que les nazis vont attaquer en plus de cela à partir de 1941 l'Union soviétique, ça c'est encore une très mauvaise surprise. Et dans un état qui est proche de l'épuisement moral, de la dépression totale, elle décide de mettre fin à ses jours le 31 août 1941. Ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, surtout, c'est la poésie de Tsvetaeva. Vous pourrez lire d'autres choses, il y a beaucoup de très bons livres sur Tsvetaeva, mais de vous embarquer dans cette poésie exceptionnelle, très vaste, on ne peut pas en une demi-heure parler de Tsvetaeva, il y a 1500 poèmes, à peu près, sur une période très longue. Tsvetaeva n'a renié aucun de ses poèmes, jamais. Mais cependant, ce qui est écrit est écrit. Et lorsque c'est écrit, on n'en parle plus. C'est passé à la postérité. Tsvetaeva n'a jamais cessé de créer, de renouveler son style, ce qui fait que pour certains des grands auteurs russes du XXe siècle qui lui ont succédé, Tsvetaeva est une des... si on en croit Joseph Brodsky, par exemple, Tsvetaeva et Mandelstam sont les deux poètes qui, pour lui, ont renouvelé et apporté quelque chose de neuf dans la poésie russe au XXe siècle. Pour Brodsky, il y en a deux, Tsvetaeva et Mandelstam. Donc je vais vous parler, j'ai essayé de traiter trois thèmes. Déjà, vous parler de sa naissance en tant que poète. Parce que ça naît comment un poète? Ensuite, de vous parler de son être au monde. Quel est son rapport aux autres, son rapport au monde? Et de traiter quand même, puisque nous sommes à Paris, dans un lieu qu'elle a peut-être d'ailleurs connu. C'est un quartier russe dans les années 20 ici, à la Basilique, le Café de Flore. On sait très bien qu'elle allait au Café de Flore, juste en face. La Rotonde, tous les Russes de l'immigration venaient ici, que ce soit des peintres, des poètes, des chanteurs, tout le monde venait ici. Donc quelque part, l'esprit de Tsvetaeva doit résonner cet après-midi. Et donc, de parler un petit peu de Tsvetaeva dans l'émigration et de ce comment elle a vécu cette émigration. Et si on a un peu de temps, on parlera donc de sa fin. Je vais commencer par un poème qui dit déjà beaucoup sur la naissance de ce poème, une naissance miraculeuse. De mes vers écrits si tôt que je ne me savais pas poète, surgit comme l'eau des fontaines, comme le feu des fusées, surgissant comme le petit diable d'un sanctuaire rempli d'encens et de rêves. De mes vers de mort et de jeunesse, de mes vers jamais lus, jetés dans la poussière des librairies où personne n'en veut et personne n'en a voulu. De mes vers, comme d'un vin précieux, viendra le tour. Maïstra, mon fils, mon takran, что не знала я, что я, поэт, сорвавшимся, как брызги из фонтана, как искры из ракет, ворвавшимся, как маленький черт из святилища, где сон и фимиам. Маюстиха, моя юность, смерти, нечитанным стихам, разбросанным в пыль по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. C'est un poème, Stéphane a dit tout à l'heure, effectivement, Tsvetaeva est une sorcière. Elle écrit cela, elle a 20 ans, c'est un jeune poète, elle a déjà écrit beaucoup, et c'est un poète qui n'est pas encore du tout arrivé à la maturité. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle, elle sait qu'elle est un poète. Et elle sait qu'elle n'a rien à attendre de l'époque dans laquelle elle vit. Elle sait qu'il faudra attendre bien plus tard. Il y a une chose que moi j'adore particulièrement dans ce poème particulier, ce sont les deux premiers vers qui en disent beaucoup sur Tsvetaeva. Quand on parle de poésie, en français on dit un poème, en allemand on dit ein Gedicht, en anglais on dit a poem, en russe on dit stichi. Toute la délicatesse des mots, toute la délicatesse de la poésie. Dans Tsvetaeva parle de sa poésie. Elle dit « Maïm Stiram ». La poésie chez Tsvetaeva, elle vient de lui. D'où exactement, elle ne sait pas. Mais il y a chez Tsvetaeva cette conscience que la poésie, elle est en elle et qu'il faut aller la chercher profondément. Comme nous, qui est dans les roches profondes, et la faire venir, et la faire jaillir. C'est exactement ce que l'histoire. C'est quelque chose donc de miraculeux. Et ça, c'est déjà sa conception de la poésie. Elle sait que c'est un génie. Elle sait qu'elle a la poésie en elle et qu'il faut la faire jaillir d'une manière ou d'une autre. Ça serait la première naissance. La deuxième naissance de Tsvetaeva, elle nous l'écrit dans un petit poème que je vous lis en russe et en français aussi. Et vous allez découvrir un des grands symboles de la poésie tsvetaevienne qui est le sorbier. Le sorbier. Grappe en feu sur les sorbiers. À la chute des feuilles, je suis né. Des cloches par centaines se répondent. C'était un samedi, jour béni de Saint-Jean. Le théologien. Un désir clair toujours m'absorbe. Mordre la mer grappe de sorme. Grâce ne le quiste, ridine à sèche glace. Padal listia, ia radelas. Spurilis atmukarakalop, dindu subourne. Иоанн Богослов. Мне на мине хочется грезд жаркой рыбини горкую кисть. Alors pourquoi c'est un poète qui pour moi représente magnifiquement la naissance du poète? Premièrement, Tsvetaeva ne peut pas vivre sans la nature. Et cette nature, elle l'a découverte quand elle était petite. Elle est moscovite, Marina Tsvetaeva. C'est pas à Moscou qu'elle découvre la nature, mais elle vit dans une famille assez riche, bourgeois, de la haute bourgeoisie intellectuelle moscovite. Et elle a une très belle datcha dans un lieu sublimissime, qui est un de mes lieux préférés sur cette terre, qui s'appelle Tarusa. Tarusa se situe à 150 km au sud de Moscou, et c'est un lieu magique. Un lieu avec des forêts, des ravins, une nature presque, j'allais dire vierge, mais c'est une nature qui n'est pas du tout, voilà, pas sauvage, pas travaillée par l'homme, avec un fleuve, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils viennent de Moscou, ils y viennent en bateau, qui s'appelle Loka. C'est un lieu pour elle où elle va découvrir les joies de la nature, les joies des champignons, des peupliers, et toute cette nature qu'elle va toujours adorée et qu'on retrouvera toujours dans sa poésie, vient de Tarusa. Et il se trouve que quand vous allez à Tarusa en fin d'été, vers août, il y a un arbre qui resplendit. c'est le sanglier. Ce que nous dit Marina, il faut le dire, elle est née en octobre, Marina. Elle est née le 8 octobre 1892. Et il y a déjà, dans ce il y a un symbole pour elle qui est très fort. Sveta Eva est née en automne. Et en octobre, l'automne, c'est quasiment l'hiver déjà en Russie. Et donc, ce qu'elle dit, les feuilles sont en train de tomber. Et donc, elle est née à un moment où la nature meurt. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a un arbre qui résiste, un arbre qui flamboie et qui garde les souvenirs de l'été, c'est le sanglier. Alors là encore, il ne faut pas avoir lu beaucoup de Sveta Eva pour se rendre compte que ce sorbier-là, c'est le buisson ardent, je l'espère. Il est bien évident que pour elle, il y a un lien mystique entre cet arbre qui, alors que tout va tomber vers le sol, lui, l'arbre, il continue à regarder vers le ciel. Elle est née un jour qui est le jour de la Saint Jean le théologien. Et Sveta Eva sera... Alors Sveta Eva a un rapport à la religion très particulier. Ce n'est pas quelqu'un qui pratique, mais c'est quelqu'un qui a un sentiment mystique très fort. Pour sa naissance, on lui a offert une icône de Saint Jean le théologien. Cette icône, elle l'a toujours gardée avec elle. Où qu'elle aille, elle l'avait dans ses valises. C'est seulement ici, lorsqu'elle a décidé de repartir en URSS, qu'elle a décidé de léguer cette icône à des amis chers pour que cette icône ne soit pas ni volée ni détruite. Mais c'est aussi une manière de... Quand je vous ai dit qu'elle est repartie pour mourir, c'est aussi un geste fort pour elle. Il faut ça, le mot russe, en fait, Saint-Jean, le théologien, ça se dit Yohan Bagaslov. Et Boga, en russe, c'est Dieu. Et Slov, c'est le mot. Donc Saint Jean, c'est celui qui apporte la parole de Dieu. C'est ça un poète pour Sveta Eva. Et ça, c'est sa mission. Ensuite, nous avons passé à un autre aspect, et je vais demander donc de lire ce poème qui s'appelle « À ma grand-mère ».
Près d'un visage ovale, sévère, puis d'une robe noire, jeune grand-mère, qui embrassa vos lèvres, vos tènes, et ses mains qui, dans les salles des palais, jouèrent les valses de Chopin, de chaque côté de ce visage glacé, des boucles tombent en spirale. Regard sombre, droit et exigeant, c'est un regard de guerrière, pas de jeune femme. Dis-moi, qui êtes-vous, jeune grand-mère? Combien d'opportunités et combien d'impossibilités aussi? Avez-vous emporté dans l'abîme insatiable de la terre, vous, jeune polonaise de 20 ans? Le jour était innocent, le vent était frais, les sombres étoiles s'éteignaient. Grand-mère, cette féroce révolte en mon cœur, c'est la vôtre, n'est-ce pas?
J'ai choisi ce poème qui s'appelle « Babushka » parce que pour moi, il est essentiel de parler... Alors, ça veut dire « à ma grand-mère ». En réalité, ce poème, il est dédié à deux personnes. Parce que derrière le portrait de sa grand-mère, qu'elle n'a jamais connue, il y a le portrait de sa mère. La mère de Sveta Eva, c'est la personne la plus importante de sa vie. C'est elle qui lui donne le goût de la littérature, de la poésie. C'est elle qui lui donne son plus grand talent. Et son plus grand génie, sa plus grand don. C'est son oreille absolue. Sa mère est une grande pianiste. Sa mère joue Chopin, Beethoven, tout le répertoire des grands auteurs allemands et russes. Sveta Eva vit dans cette ambiance musicale. La mère a tout de suite compris que son aîné, il y a deux filles, il y a Marina et Anastasia, que son aîné, c'est elle qui est l'héritière. Et elle va la mettre au piano. Tu seras en espérant qu'elle sera bientôt la grande pianiste qu'elle espère. Cette jeune mère, elle est aussi extraordinaire pour ce Taeva parce qu'elle parle déjà plusieurs langues couramment. Tous les Russes de ce niveau social parlent français couramment. Mais elle parle aussi allemand couramment. Et elle est une adoratrice de tous les grands poètes allemands de l'époque. Ce qui fait que toute petite Tsvetaeva va entendre les contes d'Hoffmann en allemand. Elle va entendre Hölderlin, Goethe, Schiller, Heinemann. Ce qui va être, et va bientôt, et Tsvetaeva va bientôt parler allemand totalement couramment également. Donc ça va être la grande force que va lui apporter cette mère. De l'autre côté, cette mère va lui apporter la rigueur, la dureté. C'est une personne qui n'est pas toujours très dure, très facile, la mère de Tsvetaeva. Parce qu'elle veut une éducation rigide. Elle la met au piano avec le métronome. Elle déteste le métronome, Tsvetaeva. Malheureusement, il y a l'autre aspect. Et il y a un autre aspect qui est le fait que cette jeune mère va bientôt souffrir de la tuberculose. Et le premier grand traumatisme de sa vie, c'est que lorsque Marina a 14 ans, sa mère meurt. Et donc Tsvetaeva va malheureusement vivre cette agonie qui va durer à peu près 2 ans. Avec des points positifs, parce que le père de Tsvetaeva va emmener sa mère en Italie pour la soigner, et pendant ce temps, Marina va passer 1 an en Suisse, à Lausanne, et 1 an à Freiburg, en Allemagne, ce qui va lui permettre là aussi de découvrir d'autres mondes, de découvrir, de continuer à travailler ses langues. Mais pour Tsvetaeva, c'est... Alors, la mort de cette mère est quelque chose qui est, pour Tsvetaeva, de la haute trahison, véritablement. Pour elle, elle se sent totalement abandonnée. Et elle sombre dans un gouffre véritablement. À plusieurs reprises, il est dit que Tsvetaeva est en train de se suicider. C'est une enfant qui devient une enfant insupportable. Elle est renvoyée de lycée en lycée. Donc indéniablement, la mort de cette mère est pour elle un traumatisme. Et pourtant, il y a aussi une libération. À ce moment-là, Tsvetaeva ferme le piano à jamais. Elle fera de la musique. Mais elle meurt. Et elle suit désormais son propre chemin. Et on ne peut pas quand même parler que de sa mère, il faut parler de son papa. Son papa, qui lui est un homme beaucoup plus âgé, il aurait pu être son grand-père. Et c'est un homme qui est un Russe, qui vient de la région de Vladimir. Et ses parents étaient des prêtres orthodoxes. Et son père a consacré sa vie, non pas à l'orthodoxie, mais à l'art. Et il a créé le musée Pouchkine, qui existe aujourd'hui encore à Moscou. Et donc toute sa vie, M. Tsvetaeva va parcourir l'Europe, aller de musée en musée, pour trouver toutes les plus belles œuvres dont il fera des copies pour que les Russes puissent voir les beautés et les génies occidentaux. Et si Tsvetaeva n'a pas beaucoup d'intérêt pour la peinture, en revanche, elle retient une chose de son père, c'est l'idée de la mission. Son père a toute sa vie travaillé pour ce grand musée. Lorsqu'il a été, en 1912, inauguré à Moscou, ce fut une grande fête, il a été tellement épuisé qu'il est mort 6 mois plus tard, de crise cardiaque. Maintenant, parlons un petit peu de Tsvetaeva par rapport à son rapport au monde. Et donc, on va faire un petit bond en avant pour vous présenter une autre personnalité qui va jouer un grand rôle dans sa vie et même après sa mort, qui est cette adorable petite fille qui s'appelle Ariadna. Ariane. C'est son premier enfant. Elle est encore toute jeune. Et il se trouve que, malheureusement, elle va l'avoir en 1912, c'est-à-dire 2 ans après, la guerre commence, et 3 ans après, naturellement, la révolution. Donc, et le mari de Tsvetaeva, elle s'est mariée en 1912 avec un homme qui est extrêmement nationaliste, qui veut combattre pour la Russie, et donc il va s'engager en 1914, et ensuite il reviendra en 1917, et au moment où la révolution commence, il décide de s'engager chez les Blancs. Donc globalement, Tsvetaeva va être avec cet enfant à peu près seul, quasiment, de 1912 à 1922, elle élève à peu près toute seule. Et ce qui fait qu'il y a une sorte de rapport totalement fusionnel entre les deux. Alors je vais vous lire un petit poème que j'aime beaucoup, que j'ai mis en musique, et je l'ai mis en musique à l'occasion d'une émission qu'on avait fait sur France Culture, qui était consacrée à Ariane Nyfland, qui a joué un grand rôle. Et ça a été le poème qui m'a demandé le moins de temps à mettre en musique. J'ai mis 2 minutes à trouver, quasiment montre en main, à trouver cette musique. Tout simplement parce que je n'ai rien, je n'ai pas besoin de faire. Sveta Eva l'avait fait pour moi. Écoutez ça. Les nailles getting in the yard. Die spielten tiges à poti. Pas qui est à poli, brésia. Pas qui est à poli, si à roti. Et pas qu'arracho l'angvaillon. Les donnes de son et les sirines. Και πτύσσε, στο ψάρι παλιό, και στράνεσαι κόρνο σαν ήλιο. J'avais juste à placer 3 accords, hein, c'était tout. Le texte était suffisant. Que me dit-elle? Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas où je suis. Même chant, même poussée. Nous étions tellement amis et tellement orphelins. Nous étions si bien ensemble. Sans maison, sans amis, sans sommeil. Nous étions 2 oiseaux. Si te levais, nous chantons. 2 vagabonds. Et nous nous nourrissons du monde. Là, je pense qu'on raisonne bien avec ce que tu as dit tout à l'heure, Stéphane. Là, on est dans une période qui est très dure pour Sveta Eva. Et d'ailleurs, un des mots qui va résonner beaucoup, malheureusement, et qui résonne avec ce que je viens de dire avant, c'est le mot sirata. C'est-à-dire le mot orphelin. Orphelin, elle se sent orphelin. Orpheline de cette mère qui l'a laissée. Et elle utilise aussi ce mot orphelin pour sa petite-fille, parce que simplement le père n'est plus là, et le père combat. Cette relation avec Ariana sera très compliquée, très difficile, parce que, vous l'avez vu dans ce poème, on n'a pas l'impression qu'on a affaire à une mère et une fille. On a l'impression à un couple de d'amis, qui va dans la vie face aux éléments. Ça lui sera reproché d'ailleurs, parce que Sveta Eva effectivement va avoir vis-à-vis de cette petite fille, comment dire. Alors d'un côté c'est exceptionnel parce que cette petite fille va être peut-être la fille la plus connue de Moscou. Parce que lorsqu'on est encore en 1915, 16, 17, elle est tout le temps avec sa mère dans toutes les réunions poétiques. Elle écrit elle-même de la poésie. Elle écrit des lettres. Parce que chez Sveta Eva, on est toujours en action. On travaille tout le temps. On écrit, on raconte des choses tout le temps. On laisse libre cours à l'imagination. Voilà. Naturellement, le problème de ça, c'est que certains lui reprochent à Sveta Eva en lui disant « C'est un enfant. » Et toi, tu la considères comme déjà une adulte. Et il y a un peu de ça aussi. Il y a les deux. Ariana sera une personnalité exceptionnelle, avec un talent exceptionnel. Et de l'autre côté, il y a effectivement cette sensation que Sveta Eva lui a un tout petit peu volé son enfance quand même si l'enfance, elle a été quand même sérieusement mise à mal par la Révolution, qui a été une période très très dure pour elle, à Moscou où il n'y a quasiment plus rien à manger et plus de, pour se chauffer. Sveta Eva a une position dans le monde particulière et je vais vous lire un autre poème qui s'appelle, qui est d'un cycle qui s'appelle Insomnie. Dans ma ville immense, nuit, la maison dort. Moi, je m'en vais. Et les passants me regardent et disent, une épouse, une fille. Moi, je ne me souviens que d'une chose, la nuit. Vent de juillet vers les mains brutes. Aussi qu'à une fenêtre, douce. Jusqu'à l'aube, le vent souffle à travers les minces parois de ma poitrine. Ici, pliée noire, à la fenêtre, lueur. Une cloche sonne. Dans ma main, une fleur. Un pas au loin, mais il ne suit personne. Une ombre là, mais moi, d'ombre, je n'en ai pas. Feu de nuit. Comme il était lumière, l'odeur à mon cou, à ma bouche, le goût de feuilles de nuit. Libérez-vous des liens du jour, mes amis. Oui, mes amis, je suis dans votre songe, dans la lune. Simplement, peut-être le début en russe quand même.
Vagrona, gora de mayon. Noche.
Из дома сонно войду, прочь, Илью думаю, жена, дочь, а я запомнила одно, ночь. Ça, c'est toujours un poème que j'aime, c'est le premier poème que j'ai mis en musique. Parce que pour moi, là-dedans, il y a du Shostakovich. Et effectivement, j'ai un lien très fort avec Shostakovich, j'ai eu la chance de jouer beaucoup à l'orchestre. Et il y a cette force, cette rythmique dans ce poème qui m'a tout de suite vraiment pris aux tripes. Et quand j'ai entendu ce poème, j'ai décidé de le mettre en musique. Et effectivement, à l'époque, je parlais quasiment pas russe. Et c'est là, effectivement, où je rebondis sur ce que Stéphane dit tout à l'heure, j'ai eu la chance de rencontrer à cette époque-là cette personne exceptionnelle qui s'appelle Lesa Tichkovska, qui est une poète elle-même, qui est un très grand poète ukrainien, russophone, qui connaît Tsvetaeva parfaitement bien, qui a fait des spectacles sur elle à Kiev, qui a mis en musique Tsvetaeva. Et donc, on a commencé à ce moment-là à travailler, effectivement, avant que je puisse, parce que moi, j'avais besoin de pouvoir comprendre le texte dans ses arcanes, dans sa profondeur. Et c'est grâce à Lesia que je suis arrivé à lire et petit à petit à prendre conscience de vraiment toute la force de ces textes. Ici, on a une Tsvetaeva qui, pour moi, ce parcours dans Moscou symbolise Tsvetaeva. C'est un oiseau nocturne, Tsvetaeva. C'est quelqu'un qui adore la nuit, qui adore se promener, qui marche tout le temps. Alors, des fois, elle aime bien des lieux d'ailleurs un peu bizarres. Elle adore les cimetières. Elle va emmener le pauvre Mandelstam, qui est aussi, je parlais tout à l'heure, un des grands poètes de l'époque. Elle va l'emmener dans les cimetières. Mandelstam détestait ça, ce qui fait que la relation avec Mandelstam s'est arrêtée assez vite. Donc, elle aime cette sensation d'être unique, d'être seule et d'être à l'intérieur de tout. Vraiment, ce que tu as dit, c'est exactement ce que dit ce poème. Elle adore Moscou. Alors, le Moscou, attention, vous avez cette vision de Moscou comme quelque chose d'extrêmement grand. Moscou, c'est une petite ville, mine de rien. Elle vit dans les quartiers importants de Moscou où toute la ligne d'intelligence se situe. Donc, on peut très très bien se balader dans Moscou sans se perdre. Et donc voilà, donc ça aussi c'est Tsvetaeva. Cette création, elle est dans le rapport à un monde qu'elle aime regarder, qu'elle aime observer précisément. Mais voyez, les autres, le quand dira-t-on, elle s'en fout. Quand elle dit voilà, et les passants, ils disent au moins un génadoge, et les gens se demandent, est-ce une épouse? Est-ce une fille? Sous-entendu, est-ce que c'est une femme qui commet l'adultère? Est-ce une fille? Mais alors, où sont ses parents? Et elle dit, ça n'est pas mon problème. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je veux ma vie. Voilà. Et de même que quand sa maison, elle dort, elle est partie. Voilà. À l'époque, elle avait déjà des enfants. Mais Tsvetaeva, elle vit sa vie. Un autre personnage important que je vais vous faire découvrir, Tsvetaeva a des personnages qui l'ont suivi toute sa vie. Et un des personnages, c'est une des grandes héroïnes françaises, Jeanne d'Arc. Et donc, je vais vous demander, merci, de lire donc le poème dédié à Jeanne qui s'appelle « Point ».
Je suis rentré et j'ai dit « Salut à toi, mon roi, il est temps de rentrer en France, à la maison. Et de nouveau, je te conduirai sur le trône. » Et de nouveau, tu me trahiras, Charles VII. N'attendez pas, prince sinistre et avare, prince exsangue aux épaules renfrognées, n'attendez pas que Jeanne cesse d'aimer la voix, que Jeanne cesse d'aimer le glaive. Il y avait Rouen et son vieux marché, tout sera comme avant, le dernier regard du cheval et le premier craquement de brindilles innocentes et le premier crépitement du feu de bois. Derrière mon épaule, mon camarade ailé, alors, murmurera « Patience, ma sœur, quand étincellera mon armure argentée du sang de pain de mon feu. »
effectivement Rouen. Tsvetaeva donc adore Jeanne d'Arc et on le comprend quand on lit ce poème pour deux raisons. Il y a du Tsvetaevien donc du Tsvetaeva dans Jeanne d'Arc, ce sens de la mission jusqu'à la mort, c'est-à-dire le sens du sacrifice, c'est-à-dire on meurt pour sa mission. Pour Jeanne d'Arc, c'était de suivre les voies. Pour Tsvetaeva, ce sera le futur, c'est-à-dire l'accomplissement de son œuvre. Et on meurt, mais en se battant. Tsvetaeva, il y a ce côté très masculin chez Tsvetaeva, qu'on retrouve chez Jeanne d'Arc. Et ce côté, effectivement, très puissant, qui est magnifiquement dit dans le texte russe, mais aussi très bien dit, magnifiquement lu le texte. Donc là, la traduction et la lecture sont remarquables. Yashla et Askazal Zdrazwe Para Karol ma Franciu de moi Iya Apia Virut Vera Tzatva Kete Apia Tamanj Karsin moi. Et là encore, Tsvetaeva est claire aussi d'une chose. Elle ne se fait aucune illusion sur les autres. Charles VII a trahi Jeanne d'Arc. Elle le sait. Elle sera aussi trahie par le sien. Ce n'est pas grave. Elle va son chemin. Et malheureusement, elle a raison. Parce que celui qui l'emmène dans la mort, c'est son mari. Donc voilà quelques petits éléments sur le rapport de Tsvetaeva et le monde qui montre bien cette personnalité très franche, très dure aussi. Très généreuse dans l'effort, très généreuse dans sa mission. C'est quelques petites choses, parce que j'ai parlé d'Ariadna, il faut parler malheureusement aussi d'un grand drame de sa vie. Tsvetaeva a eu deux filles, Ariadna, une deuxième qu'elle a eu en 1917, lui, qui s'appelle donc Irina. Si vous voulez en savoir plus, il y a un très beau livre qui a été écrit par Béatrice Vilmos. Il y a un an de cela, qui s'appelle « Tant de neige et si peu de pain ». C'est un des aspects sombres un peu de la vie de Tsvetaeva. Je ne m'étendrai pas ici, le livre de Vilmos c'est assez bien, et puis on peut en rediscuter. Mais il y a des Russes qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas lire Tsvetaeva à cause de ça. Parce que Tsvetaeva, sa deuxième fille, elle est morte, dans un orphelinat. Et beaucoup de gens disent « Tsvetaeva est responsable de ça ». Elle n'aurait pas dû la laisser dans l'orphelinat. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, tout simplement parce que Tsvetaeva, en 1919, la situation en Russie, elle est catastrophique. Et donc, Tsvetaeva ne peut pas passer son temps à surveiller les deux petites filles dans des appartements où il fait moins 5, parce qu'il n'y a plus de chauffage, et de l'autre côté, courir les rues pour essayer de trouver une pomme de terre ou un chou à moitié rassis. Et donc, du coup, elle se dit, si je mets mes petites filles dans l'orphelinat, au moins elles seront en sécurité et elles pourront manger quelque chose. Voilà. Là où malheureusement Tsvetaeva manque de lucidité peut-être, c'est que elle les pose en novembre 1919 dans cet orphelinat à 30 km de Moscou et Ariadna tombe très gravement malade. Mais très gravement malade. Là sa vie est en danger. Et lorsqu'elle va récupérer Ariadna pour la reprendre avec elle et la soigner, je pense que là, il y a peut-être une erreur. Peut-être que là, elle aurait pu prendre les deux en même temps. Mais elle laisse la petite seule, toute seule dans l'orphelinat. Et malheureusement, au moment où elle arrive à soigner Ariadna, et Ariadna donc survit, un message arrive de l'orphelinat, la petite est morte. Ça sera le deuxième grand traumatisme de la vie de Tsvetaeva. Une culpabilité terrifiante, effectivement. Absolument. Et donc, l'émigration commence. L'émigration commence. Et pour elle, l'émigration, ce ne sera pas... Alors, c'est le plaisir de retrouver sa famille à Prague. Elle est dans une... une période très particulière. Parce que, en réalité, toute la période moscovite a été une période de gestation poétique. C'est véritablement à Prague,
que naît la grande Suétaise. C'est là où on n'a plus du tout les mêmes... Là, on sent, quand on lit des choses, jusqu'à présent, on adore la poésie de Tsvetaeva à Moscou, c'est pas le problème, mais là, indéniablement, on passe un cap dans le style, dans le style devient plus lourd, on a beaucoup plus de références, les références bibliques, des références à la littérature, des références à la Grèce antique. Elle va se replonger dans la bibliothèque de l'université de Prague, elle se replonge dans tous les grands classiques qu'elle va retravailler, qu'elle va méditer. Et on sent que sa poésie se gorge véritablement, et de même qu'elle se libère de son pays, de même qu'elle s'est libérée de sa maman, elle se libère de toutes les contraintes stylistiques de la poésie russe, à ce moment-là, paradoxalement. Et elle commence à écrire des choses assez étonnantes, et on a des critiques littéraires à cette époque-là qui montrent ça. En disant, on a lu un texte de Tsvetaeva, on n'a jamais lu ça avant. Donc quelque chose s'est passé. Je vais vous lire un des premiers poèmes qu'elle écrit, qui est un poème qui s'appelle Le Balcon. 1922. Elle arrive à Berlin, elle est toute seule, parce qu'en réalité son mari est déjà parti à Prague. Et elle vit dans une pension qui s'appelle la pension Elisabeth Schmidt, rue Trautenauerstraße, à Berlin. Et elle est sur son balcon. Et voilà ce qu'elle dit. C'est pas trop beau. Ô brave balcon qui ne connaît que la loi franche de la pesanteur. L'amour terrestre n'a pas de poids. Il sale les larmes. Jusqu'à quand, ma douleur ? Balcon, la verse salée n'enlève pas le goût des méchants baisers. Mais sur toi, le souffle de la haine inépuisable s'exhale dans les vers. Qu'est-ce que je tiens serré dans ma main ? Mon cœur ? Ou un lambeau de tissu de batiste ? Il n'y a qu'un nom pour cela. C'est le Jourdain. Jourdain. Oui, car cette lutte avec l'amour est violente et requiert un cœur dur avant de m'envoler de cette dalle sourcil de granit et d'être happé par le souffle de la mort. Je vais vous lire le début en russe et je vais vous expliquer pourquoi je pense que là on a encore quelque chose qui a extraordinaire chez cet homme. Ah, sa kromnava advyesa vnizhto v prach. И в смолт земной любовью недовисок слезы солит докол. Балкон сквозь соленья ливни смол поцелуй взлет и ненависти неизбежно вздох вылечатся в стех. Алло. J'attire votre attention sur une chose, c'est que le style de Tsvetaeva devient de plus en plus condensé. Dans les deux premiers vers, il n'y a pas un seul verbe. Et elle décrit quoi ici ? Elle décrit son suicide. De manière absolument grandiose, puisqu'elle dit « Ah, ça crevine ça, et ça monte !» Et tout d'un coup, « Vniz » qui en russe veut dire « en bas ». Et donc on voit le corps qui tombe, et qui s'écrase sur le sol. « Je prach !» Cette Eva n'est pas dans un très très bon état quand elle arrive à Berlin. On sent qu'il y a des choses en elle. Il y a à la fois un feu qui brûle. Elle a envie de vivre. Je vous rappelle que là, on est 2 ans après la mort de sa fille. Ça fait 5 ans qu'elle a vécu dans les pires souffrances à Moscou pendant la guerre. Et là, et donc il y a une espèce d'attente de la vie, de soif de la vie, de violence qui est en elle, d'envie d'amour, parce qu'il n'y a pas eu d'amour depuis très longtemps. Tsvetaeva est quelqu'un qui vit beaucoup avec l'amour en Russie, il y a eu beaucoup, beaucoup d'amants, de grandes passions, mais depuis 1917, quasiment 18, quasiment plus rien, parce que depuis 1918, on survit. Et là, tout d'un coup, elle arrive avec cette espèce de force, de joie, d'envie de croquer la vie à pleines dents. Et malheureusement, ce qui se passe quand elle arrive à Berlin, c'est qu'elle tombe sur des émigrés qui sont déjà complètement écrasés par leur sort. Et lorsqu'elle s'emballe un petit peu pour les gens qu'elle a autour, elle ne reçoit pas l'attente. Elle ne reçoit pas ce qu'elle aimerait. Et donc, il y a cette espèce de force qui est en elle,
qui est malheureusement déçue. Et donc, cet amour qui est en elle, elle le dit très très bien, ce n'est qu'une souffrance salée. Et donc, ce balcon devient une sorte de promontoire, et c'est là où on est naturellement toujours, on revient à ce que dit Stéphane tout à l'heure, et toi l'inverse, toujours cette espèce de monde du milieu. Le balcon, c'est d'un côté le monde où elle écrit de la poésie, parce que cette souffrance, c'est ce qu'elle dit dans la deuxième strophe, cette souffrance, c'est ce qui va lui permettre d'écrire, de transformer cette force qui est en elle, cette frustration, cette souffrance en vers. Et de l'autre côté, voilà, donc cette souffrance, elle reste en elle malgré tout. Et donc on a cette espèce de voie, de chemin terrifiant entre d'un côté cette violence qui est en elle, qu'elle transforme et qu'elle transfigure dans de la poésie, de l'autre côté, cette souffrance personnelle dont elle n'arrive pas à se débarrasser. Et ce qui, là où on voit vraiment comment cette Eva, elle est devenue exceptionnelle, c'est-à-dire que chaque mot devient désormais et posé sur la feuille pour créer un maillage. Chaque mot avec des sonorités se répondent. Hein, moi qui connais bien Rilke aussi, on est déjà dans du Rilke de la fin de Rilke. Vraiment une poésie d'une densité féroce. Je vous relis simplement la deuxième strophe qui pour moi est extraordinaire en termes de rythmique et de densité musicale. Et ça, c'est exceptionnel. Voilà encore, je dis, c'est pour ça que le russe est fondamental, c'est pour ça que le russe était pour moi indispensable, d'avoir cette densité de mots, sans même avoir à comprendre les mots, on ressent ce qu'elle dit. Et donc l'émigration commence, et malheureusement, pas, comme vous l'avez vu, de manière pas toujours extraordinaire. Et ça ne va pas s'arranger, parce qu'elle se rend compte que naturellement l'immigration, c'est un déchirement. Et elle écrit un magnifique texte qui s'appelle « Distance ». Rastayanie. Allez-y.
Distance des vestes, des milliers. On nous a dispersés, déliés, transplantés à deux extrémités de la terre. Pour qu'on soit bien sage. Distance, verste, immensité, on nous a dessoudés, déplacés, on a disjoint nos bras, deux crucifixions se moquant que nous étions une fusion de talents et de tendons noués. On ne nous a pas désaccordés, on nous a déshonorés, stratifiés, murs et tranchés. Expulsés, on nous a, tels deux aigles, conjurés, verste, immensité. On ne nous a pas contrariés, on nous a condamnés au taudis misérable sur toutes les latitudes terrestres, balancés comme deux orphelins. Au mois de mars, oui, quelle date, on nous a éparpillés tel un jeu de cartes.
Alors ça, c'est encore une très belle traduction, et encore bravo, merci aussi pour la lecture, bravo pour les lectures, merci, c'était vraiment magnifique. Et là encore, très très beau, parce que le traducteur a vraiment respecté le texte de Tsvetaeva. En fait, ce côté de déchirement, il y a un préfixe en russe, c'est « ras ». Et donc tout le texte est fait à partir de verbes, à partir de « ras ». Donc « ras tayani vyorshimilina ras tavirina ras sadiri shobitihasidavili vabnum razdam ras tayani ras kleri ras payali. Donc tout le texte est scandé par ces mots qui frappent et avec cette extraordinaire violence. Et c'est ce qu'elle ressent. Et là, ce texte-là, il est écrit en 1925. À un moment, en fait, il est écrit pour son nouveau grand amour qui est Boris Pasternak. Pasternak, ils ne se sont pas rencontrés à Moscou, ou alors sans se connaître véritablement. Pasternak est lui un jeune poète aussi tout à fait prometteur. Mais pas encore du niveau de Tsvetaeva. Ils sont du même âge à peu près, mais il n'a pas encore écrit autant, Pasternak. Mais il y a entre eux quelque chose qui colle. ils se sentent frères et sœurs de poésie. Et lorsque Pasternak arrive à Berlin, parce que son père a décidé d'émigrer à Berlin, cet Aéva n'est plus là. Et il tombe à ce moment-là sur un des poèmes, sur un des recueils de cet Aéva, et il est totalement fasciné. Et donc il veut lui écrire, et donc une correspondance va s'établir entre Pasternak et Tsvetaeva. Malheureusement, pour des raisons complexes, parce que Pasternak est aussi un être complexe, il faut savoir que Pasternak vient de se marier avec une femme, et que globalement, lorsque Tsvetaeva arrive dans ce... il se dit peut-être j'ai choisi la mauvaise en fait. Voilà, c'était peut-être l'autre qui était en fait la vraie. Hein, et naturellement, l'épouse de Pasternak ne voit pas ça du tout d'un bon œil. Donc, du coup, n'a pas du tout envie de voir Pasternak aussi se rapprocher de Tsvetaeva. Je pense qu'il n'y aurait rien eu au niveau, en réalité, sentimental. C'était avant tout un amour vraiment poétique. Mais à l'époque, on ne le savait pas encore. Mais le gros problème, c'est que ces deux poètes qui avaient tout pour se voir, pour vraiment communiquer, échanger, ne se voient pas. Et donc, ils doivent communiquer par lettre interposée. Et c'est bien ce qu'elle dit. Et ça, c'est quelque chose qui sera... Tsvetaeva, elle aime le contact physique. Elle aime être avec les gens. Et malheureusement, ce contact physique, alors quand elle est dans la société, elle déteste ça. Parce que la mondanité, elle déteste la mondanité. Elle, ce qu'elle aime, c'est discuter, c'est parler, c'est aborder des sujets compliqués. Elle est épuisante, disaient les gens. Il y a des gens qui lui ont dit, elle est épuisante. Mais elle, c'est ça c'est ce qu'elle aime. Elle aime la sincérité. Elle déteste les hypocrites, les mondains. Et justement, avec Pasternak, il y avait enfin quelqu'un avec lequel elle pouvait parler de poésie. Il se comprenait quasiment sans avoir à se dire les choses. Et malheureusement, l'histoire les a séparés. L'histoire de l'émigration sera compliquée pour Tsvetaeva, avec quand même absolument parfait, avec des choses quand même très positives. Et la chose la plus positive pour Tsvetaeva, ce sera la naissance en 1925 d'un petit garçon. Elle voulait un fils, elle l'a eu. Il s'appelle Mour Georges. Alors Georges, prénom officiel. Là encore, on ne choisit pas les prénoms par hasard. Georges, c'est le plus grand saint chez les Russes. C'est Saint Georges qui terrasse le dragon.
C'est pas le fils de Pasternak ?
Ah non, pas, non, c'est pas, non, ils se sont jamais vus. Mais en revanche, quelque part, il y a eu une sorte... Elle voulait l'appeler Boris. Et en fait, après, elle dit non, il n'y a qu'un Boris. Voilà. Mais quelque part, il y a peut-être dans ce petit garçon une sorte de transfuge mystique de Pasternak. Ça, c'est assez juste. Voilà. Et donc ça, c'est pour la côté... Alors, d'un autre côté, malheureusement, c'est à la fois quelque chose d'extraordinaire pour elle, parce qu'elle le voulait, elle l'attendait, ce petit garçon. Malheureusement, c'est aussi un poids pour elle, parce qu'elle doit le... C'est fini le temps où les Tsvetaeva vivaient à Moscou avec une gouvernante, des femmes de chambre et tout. Ça, avant, c'était ça. Mais c'est fini ce temps-là. Maintenant, elle est toute seule. Et le mari, lui, va qu'à ses occupations souvent politiques. Ou alors il essaye aussi de faire ce qu'il peut. Efron n'a jamais vraiment fait grand chose. Il a essayé d'être figurant, ça n'a pas marché vraiment beaucoup. Il a essayé d'être rédacteur dans des revues, ceux qui n'ont pas fait le feu. Donc ça a été toujours assez assez médiocre. Le pauvre Efron, voilà, il n'est pas bien. Et elle continue malgré tout à travailler. Elle publiera un recueil qui doit être quelque part, qui s'appelle Après la Russie, passer la Russie. Que vous pouvez trouver voilà, dans ce là dans une très bonne traduction de Bernard Kreise. Donc l'émigration est chez elle, à la fois elle est très redevable à la France, parce que simplement la France est en paix. Hein, la France, il n'y a pas la police politique qui vient vous arrêter tous les quatre matins pour vous mettre au goulag, et ça elle sait ce qui se passe en Russie. Mais le problème, c'est qu'elle se sent de plus en plus isolée dans un milieu de l'immigration qui est malheureusement pour elle un milieu qui s'assèche petit à petit. Les gens qui se retranchent sur eux-mêmes. Et puis il y a un monde qu'elle aime de moins en moins. Elle ne se sent plus à l'aise non plus dans cette société qui est la société parisienne de l'époque. Problème de génération. Les jeunes, déjà, s'intéressent plus trop à la littérature. Déjà. S'intéressent plus trop à la poésie. Déjà. Elle voit des gens qui passent leur temps à lire des journaux. On n'est pas sur les portables, on est sur les journaux. Mais pour elle, c'est absolument aussi catastrophique. Lire les journaux, pour elle, c'est une catastrophe. Absolument. Et donc, elle se sent...
Elle voit son fils et son mari.
Et voilà, exactement. Ah oui, en plus, chez elle, elle a des tas de piles de journaux. En général, c'est la Pravda qui récupère. Donc, je vais vous dire que cette année-là, quand elle voit ça, elle est dans un état de très, très grande colère. Et donc, voilà ce que... Mais faut-il pour autant regretter la Russie? Pas simple. Et de temps en temps, non, en réalité non, mais de temps en temps, une bouffée de nostalgie arrive, et elle le décrit très bien, cette espèce de vision entre les deux, dans un poème qui s'appelle « Mal du pays ». Mal du pays, un mauvais mal, depuis longtemps démasqué. Il m'est absolument égal le lieu qui abritera ma solitude, sur quel pavé errer, rentrer, seul, chez soi, cabas au bras, dans cette maison qui ne sait même pas qu'elle est à moi, hôpital, caserne. Il m'est égal à qui paraître au lion en cage, devant quels gens et de quel milieu humain être immanquablement expulsé en moi-même dans l'isoloir du cœur. Mal vivre, qu'importe où ma vie lire, moi, ours polaire sans sa banquise. Tout m'est égal. Même ma langue maternelle, au son lacté, je m'en défie. Il m'est indifférent de savoir en quelle langue être incomprise. Et de qui? Et le lecteur? Le lecteur de journaux? Lecteur glouton de tonnes de presse, il s'abreuve de potins. 20e siècle, voilà ton homme. Moi, je suis avant tous les siècles. Bûche abandonnée sur les dalles d'une allée durcie de partout. Tout m'est égal, de tout je me fous. Mais m'est avant tout égal ce qui me fut le plus cher. Les marques, les signes, les dates. Que rien ne reste, tout est oublié. Je ne suis plus une âme, née un jour, quelque part. Mon pays a si bien su me garder que... cherchant partout sur ma peau de long en large, le plus fin limier ne trouvera plus sur moi ni marque ni signe. Tout logis est désert, étrangère, toute église, tout m'est égal, tout est pareil, effacé de ma mémoire. Mais, si sur ma route surgit un buisson et que c'est un sorbier. Donc une période qui ne... Elle restera toujours très 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 productive. De moins en moins de textes poétiques, de plus en plus de textes autobiographiques, qui sont assez magnifiques et que vous pouvez lire, parce que ça, c'est beaucoup plus facile que la poésie de Tsvetaeva. Et puis, les nuages noirs s'amoncellent et elle est extrêmement inquiète, parce que dès le départ, dès 1933, Tsvetaeva sent une menace peser sur l'Europe. Et elle dit, mais qu'est-ce que ce peuple que j'aime tant, mais mon Allemagne, l'Allemagne de mon cœur, qu'est-ce que fait cette Allemagne avec cette espèce de truand? Dès 1933, elle le sait. Elle sait que la menace est là et que cela va être extrêmement difficile. Elle a ce sentiment très tôt. Et donc, et lorsqu'elle voit que les Occidentaux, que les Anglais, que les Français à Munich ne tiennent pas vraiment compte de cette menace, elle est en colère. Elle est en colère contre les Français, elle est en colère contre les Anglais. Et c'est une des rares fois où elle va dire, eh bien en fait, il n'y a plus qu'un seul pays qui sauvera le monde, c'est l'URSS. Et c'est la seule fois où elle sort, elle dira ça, elle qui déteste l'URSS pour une raison aussi très simple. Elle dit, comment voulez-vous aimer un pays dans lequel il n'y a pas une seule voyelle? Parce qu'en russe, ça se dit SSSR. Et elle dit, voilà, moi je ne peux pas aimer ce pays-là à cause de ça, rien que pour ça, pour le reste aussi. Et voilà. Et c'est la seule fois. Ça, c'est sincère. Hein, et voilà. Et c'est la seule fois où elle éprouve une sorte de flash, là, aussi en disant ben, peut-être que c'est nous qui allons réussir à nous élever contre le nazisme. Et lorsque Tsveta Eva apprend l'invasion des Sudètes, elle est en colère. Et l'inspiration revient. Et elle écrit un cycle qui s'appelle Poème à la Tchécoslovaquie, un cycle d'une très grande violence, où elle crache véritablement, littéralement, sur les nazis, avec une force qu'on ne. Et des poèmes qui sont très durs, où vraiment on sent tout son désespoir et aussi sa détermination à lutter. Un des derniers poèmes que j'ai lu aujourd'hui. Elle parle des Allemands. Alors j'ai aussi une chose parce que ça rebondit sur ce que dit Stéphane. Le poème est fondé en fait sur un verbe qui est le verbe brat et vziat en russe qui veut dire prendre. Pour Tsveta Eva, celui qui prend n'est pas un poète. Le poète ne prend pas. Le poète, il est en harmonie avec le monde chez Tsveta Eva. Celui qui prend, c'est un brigand. Et donc, ce sont les nazis. Ils prenaient vite, ils prenaient largement. Ils ont pris les cygnes, ils ont pris les tréfonds, ils ont pris l'acier, ils ont pris le charbon, ils ont pris notre cristal et notre plomb, ils ont pris le sucre, ils ont pris le trèfle, ils ont pris le nord et ils ont pris l'est, ils ont pris les ruches et ils ont pris le blé, ils ont pris notre midi et notre ouest, les tatras, ils les ont pris et ils ont pris les termes de Vary, ils ont pris les alentours et les lointains, mais plus amers que le paradis sur terre, ils ont pris les armes. Sur le sol natal, ils ont pris les fusils, ont pris les cartouches, ils ont pris l'amitié, pris le minerai. Mais tant qu'il reste du crachat dans la bouche, tout le pays est armé. Et donc, comme je vous l'ai dit, Tsveta Eva repart donc en 1939. Lorsque elle est donc naturellement, comme tous les grands, comme tous les émigrés, elle est mise à l'écart de Moscou, d'autant plus que son mari était un espion, donc il était hors de question de le laisser voir tout le monde. Malheureusement, à l'époque, un monsieur vient de prendre la tête du NKVD, il s'appelle Beria.
Ah oui.
Voilà, donc un type formidable, un grand humaniste. Et comme tous les gens à la tête du NKVD, tous plus fous les uns que les autres, et tous faisant preuve de cruauté les uns que les autres. Et donc Beria, naturellement, il doit prouver qu'il est le grand chef du NKVD, et il commence les purges. Et naturellement, quand vous avez un Gugus qui vient de France, qui a pourtant travaillé pour le NKVD, il est très facile de dire que ce monsieur est un espion à la solde des Français, espion double, il est arrêté. Alors d'abord, non, beaucoup plus terrible que ça, on arrête cette petite fille qui est devenue une belle jeune fille, on l'arrête, on la torture, on lui dit « ton père est un espion français ». Alors au bout de quelques heures de torture, en général, on avoue. Hein, donc voilà. Donc du coup, le NKVD va arrêter Efron. Et donc, pendant un an, il sera dans les geôles de la Loubianka, où il sera torturé. Efron n'avouera jamais, parce que lui, malgré la torture, parce que lui, il dit « moi, je n'ai jamais, j'ai toujours été dans le camp soviétique ». Tsveta Eva se retrouve toute seule. Alors naturellement, imaginez, vous êtes émigré. Vous avez un mari qui est arrêté, autant vous dire, il n'y a plus grand monde qui vous parle, il n'y a plus grand monde, tout le monde à peu près vous tourne le dos. Et puis malheureusement, la guerre commence, et là aussi, malheureusement, un enchevêtrement de mauvaises circonstances. Elle ne prend pas le bon bateau, elle se serait retrouvée peut-être avec Pasternak, Akhmatova ou d'autres, elle est toute seule. Et elle arrive au fin fond du Tatarstan, elle est avec son fils, ils n'ont strictement plus rien. Plus d'argent, plus rien à manger. Elle est émigrée. Pour travailler en Russie, vous avez besoin d'une autorisation. Elle n'a pas cette autorisation. Donc globalement, c'est une condamnation à mort. Le NKVD vient la voir pour dire « Si tu travailles pour nous, on peut faire quelque chose pour toi. » Sous-entendu, vous avez compris. En revanche, si tu ne travailles pas pour nous, ton petit garçon-là, il part au front demain. Le lendemain matin, malheureusement, enfin à midi, on retrouvera Tsveta Eva pendue. Mais, et alors cette petite fille, donc Ariana, va prendre 15 ans de camp. Elle sortira en 1955. Sachez que la sœur de Tsveta Eva avait pris avant, parce que sa sœur est très religieuse, et elle a pris 12 ans de camp. Le mari de Tsveta Evin a été fusillé en octobre 41. Mais il y a des miracles. Et parmi ces miracles, ben c'est elle. C'est-à-dire cette petite fille, lorsqu'elle est sortie de camp, elle a décidé de se consacrer à la mémoire de sa mère. Et c'est elle qui a commencé à rassembler les témoignages, à rassembler tous les textes. Au moment où il y a eu une certaine libéralisation, avec des grosses guillemets, du régime soviétique, on a publié une espèce d'anthologie de Tsveta Evin en 1961, que Ariadna a supervisée. Donc, malgré tout, Tsveta Evin a continué à vivre en Russie, grâce à Pasternak, grâce à tous les gens qui l'aimaient, parce que les textes étaient quand même sous le manteau. À Paris, naturellement, il y a une maison d'édition qui existe encore aujourd'hui, qui a une Capresse, les éditeurs réunis, qui ont continué à travailler et à publier les textes de Tsveta Evin. Vous aviez des gens qui adoraient Tsveta Evin, qui étaient partis à New York, je pense à Yuri Vask, qui a publié aussi énormément de choses à New York. Donc, la voix de Tsveta Evin ne s'est jamais éteinte en Occident, et pas non plus en URSS. Et je termine simplement par un des très beaux textes de Tsveta Evin qui s'appelle Les Poètes. C'est un cycle de trois poèmes qui date de 1923 et qui dit à peu près, globalement, qui résume un petit peu tout ce qu'on a dit, Stéphane et moi-même, sur le poète et la fonction du poète et la mission du poète. Il commence de loin son discours, le poète. Il l'emmène loin, son discours, le poète. Planète, marque, chemin détourné, ravin de paraboles, entre oui et non, et même jeté du haut d'un clocher, il fera un détour, car la voix des poètes est celle des comètes. Rompu les liens de cause à effet, rien de fixe, le front dressé, aucun espoir. Les éclipses des poètes ne sont pas dans le calendrier. Il est celui qui brouille les cartes, mélange les poids, mêle les chiffres. Il interroge le maître, lui, le disciple, et il bat Kant à plate couture. Dans le cercueil de la Bastille, il s'épanouit, toute la splendeur d'un arbre en fleurs. Il est celui dont on a tous perdu la trace. Le train, toujours manqué, car sa voix de poète est celle des comètes. Pour chauffer, il consume. Pour pousser, il déchire. Explosion, effraction. Sa route, une course. Une courbe échevelée n'est pas inscrite dans les calendriers. Merci.
Merci beaucoup, magnifique, c'était absolument remarquable. Et ben, on ouvre le débat s'il y a des questions. Oui, quand était décédée la fille, Ariana?
Sa fille en 1975. Non, ça va.
L'année de sa naissance.
Oui, tout à fait.
Ah, voilà.
Vous avez raison, Moore a été sauvé par le sacrifice de sa maman, mais lui, il voulait défendre la Sainte-Russie, et donc il s'est engagé en 1943, et il est mort en 1944 dans un combat en Biélorussie. On a une stèle, mais on ne sait pas où exactement.
Par rapport au critère de la prosodie de la poésie française, dans quelle catégorie on pourrait classer justement ce détaillard? Est-ce que c'est de la poésie libre? C'est de la poésie libérée? C'est de la poésie
non.
Classique, néoclassique?
Tsveta Evin conserve la rythmique russe, c'est-à-dire avec les styles de Yand, Dactyl, tata, 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 donc ça, on a ça. Elle conserve toujours la rime. Et à l'intérieur de ce carcan très dur, elle fait ce qu'elle veut.
D'accord.
Donc c'est ce qui fait qu'elle est à la fois, pour les classiques, c'est une affreuse moderne, mais pour les modernes, elle y a quand même du classique chez elle.
Alors comment la traduire avec les rimes? Est-ce qu'on peut traduire avec les rimes ou comment fait-on?
Eh bien, c'est le... Alors, on a une chose extraordinaire que Nadine Dubourvieux, qui est une grande traductrice de Tsveta Evin, m'a dit un jour, elle dit, quand on a lu les traductions de Tsveta Evin, on a peur de rien. Parce que Tsvetaeva a traduit elle-même des textes de Pouchkine en français, de Lermontov en français, et donc elle a traduit beaucoup en français, et donc du coup on voit comment elle fonctionne. Et c'est vrai que vous avez le texte, et en fait elle s'immerge dans le texte, et ce qui est important pour elle, c'est de faire ressentir ce qu'elle considère comme la substantifique moelle du poème. Et donc parfois elle prend des libertés avec le poème original, c'est assez impressionnant. Donc voilà, donc je pense que si vous voulez, il n'y aura jamais de, entre guillemets, de bonne traduction, mais d'un autre côté on est d'une reconnaissance infinie dans tous les traducteurs qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc c'est l'intérêt des notes, c'est l'intérêt aussi de pouvoir avoir des gens comme Markovitch ou ce que je fais ici, c'est-à-dire de toujours passer pour vous faire entendre le russe, pour vous en faire entendre la dynamique du texte. Parce que souvent on voit bien que le texte français, même s'il est un peu plat, tout d'un coup en russe, tout d'un coup il prend. Voilà. Après vous avez des. Je vous dis, il y a certaines traductions que je trouve remarquables aussi. Donc on est toujours un petit peu dans cette espèce d'ambivalence, mais on a cette chance formidable avec Tsvetaeva d'avoir des textes en français d'elle. Et ce qui est extraordinaire dans les textes en français, donc je vous invite à lire Le Gars, mais lise là aussi, qui est un conte qui a été mis en scène à plusieurs reprises, mais là encore elle écrit en français comme elle écrit en russe. Et donc, c'est ça. Et donc pour nous les Français, c'est un peu choquant, parce qu'elle a une façon d'écrire en français qui est parfois totalement, un petit peu vieillotte, parfois totalement surprenante. Et là, un peu, on retrouve en russe aussi, en français, ce qu'elle fait en russe aussi.
Et donc, quel est le titre de cette nouvelle?
Le gars. Donc c'est un conte qu'elle a écrit en 1924, à partir d'un... C'est une réécriture, si vous voulez, d'un conte d'Afanassiev, qu'elle a complètement modifié. Et ensuite, quand elle est arrivée à Paris, elle a décidé, elle dit, il faut que j'essaie de trouver quelque chose pour les éditeurs français. Mmh. Et elle s'est attelée à sa traduction. Et en réalité, elle a réécrit un texte nouveau, mais en français. Donc là, moi j'adore ce texte, parce que c'est le seul moment où on entend Tsvetaeva elle-même. Là, ce que vous avez entendu, naturellement, sauf en russe, mais vous avez entendu les traductions. Donc là, vous avez vraiment Tsvetaeva qui parle en français. Donc c'est un texte. Parce que c'est aussi une question qu'on me pose souvent. Dans tous les grands poètes russes du XXe siècle, c'est la seule dont on n'a pas d'enregistrement. Alors naturellement, quand on lit Tsvetaeva, c'est tellement... voilà. Mais Pasternak, on l'entend. Akhmatova, on l'entend. Mandelstam, on l'entend. Mayakovsky, on l'entend. Issinine, on l'entend. Tsvetaeva, non.
Non, c'est... Rencontré
oui. Proche. Non. Alors, non, compliqué. Compliqué. Le thème Akhmatova. Bon, Akhmatova, Tsvetaeva, c'est les deux grandes lumières de cette époque. Hein. Rien à voir au niveau poésie. Rien à voir. Il y a les Akhmatoviens, il y a les Tsvetaeviens, il y a ceux. Moi, personnellement, j'adore Akhmatova aussi. Bon, Tsvetaeva, vous avez compris qu'il y a un truc spécial entre nous deux. Mais voilà. Mais quand elle était petite, Akhmatova était plus précoce. Parce que très rapidement, Akhmatova, qui était à Saint-Pétersbourg, a été inclus dans les grands cercles de poésie, avec déjà des grands noms de la poésie, comme Alexander Bloch, son premier mari Nikolai Gumilov ou autres, qui étaient déjà des poètes reconnus. Donc très rapidement, Akhmatova a été considérée comme voilà, la nouvelle étoile de la poésie russe. Et Tsvetaeva, elle écrivait chez elle, dans son petit truc, elle faisait ses petits machins, pas encore. Donc du coup, Akhmatova est beaucoup plus... arrivé beaucoup plus tôt, avec beaucoup plus de publications. Tsvetaeva adorait Akhmatova. Elle a écrit de très beaux poèmes pour célébrer cette muse des pleurs, d'ailleurs, Omuza Placha, comme elle dit dans un très très beau texte. Donc elle a vraiment une énorme reconnaissance, une énorme admiration pour Akhmatova. Elle ne se rencontre pas de la période moscovite, elle voudrait la rencontrer, elle va à Saint-Pétersbourg. Pour un nouvel an, mais elle n'est pas là, Akhmatova. Alexander Bloch non plus, donc elle ne voit personne, elle est un peu déçue. D'autant plus qu'elle vient de se faire larguer. Elle avait une grande histoire d'amour avec une femme à l'époque, et elle se fait larguer à ce moment-là, donc c'était pas une bonne période pour elle. Donc voilà. Et lorsqu'elle revient en Russie, elle va rencontrer Akhmatova. Et ça va être terrible pour elle. Ça va être terrible parce qu'elle voit quelqu'un, elle dit, mais Akhmatova n'a pas évolué. Pendant 20 ans, c'est comme si je la retrouvais 20 ans avant. Et donc pour Tsvetaeva, c'est quelque chose de très dur. parce que elle voit une femme qui n'écrit plus, enfin qui écrit, si elle écrit toujours, enfin, Thomas, mais qui ne publie pas et qui vit complètement à côté de la société. Elle a été vraiment ostracisée. Alors elle a son cercle d'amis, donc qui apprennent d'ailleurs ses poésies par cœur pour maintenir, voilà. Mais et c'est quelque chose qui est très très dur pour Tsvetaeva. Voilà. Donc voilà, donc c'est, et elle se dit voilà, ben, elle a suivi, en fait paradoxalement l'émigration lui a permis de suivre une voie et de transformer Akhmatova. C'est comme s'il y avait une espèce de glaciation qui était tombée sur elle à partir de la période soviétique.
Merci beaucoup infiniment. Je laisse la parole à Stéphane qui veut nous aider encore un mot ou deux.
Juste pour, voilà, je vous avais proposé le petit flyer de l'espace poétique que j'anime depuis plusieurs années à l'association Sésame. Donc voilà, si vous voulez des renseignements, vous avez un programme de l'association Sésame qui est à votre disposition. Si vous le souhaitez, encore un grand merci à Florent Delporte et à cette inspiration.
Merci.
Très vivant, effectivement.
C'est le...